Paris, et sans doute même à Brive, pour les familles qui n'avaient personne au front, l'angoisse était présente, oppressante, et la douleur écrasante pour certains. À tel point qu'Édouard et lui avaient tout de suite compris que leur présence au village était presque une provocation, qu'elle levait même des jalousies. D'abord parce qu'ils étaient en permission. Épuisés, certes, désorientés, mais bien là, chez eux. Alors que beaucoup de leurs frères d'armes n'avaient toujours pas bénéficié de quelques jours de repos au pays. Ensuite, parce que des voisins avaient déjà vu revenir un fils ou un époux mutilé pour la vie, et dont l'armée, pourtant en manque d'hommes, et qui enrôlait même les borgnes, ne voulait plus. Ils étaient là, déjà trop nombreux, et tellement présents, ceux qui avaient laissé un bras ou une jambe, ou les deux, dans quelque champ de la Marne ou du Soissonnais. Et là aussi, ceux qui étaient criblés d'éclats ou pourris par les gaz à un point tel qu'on doutait qu'ils fussent encore vivants. Pitoyable spectre, pour qui Jean et Édouard, malgré leur regard de ceux qui ont vu l'enfer en face, étaient des privilégiés. Ils étaient aussi des privilégiés aux yeux des veuves, des enfants et des mères de tous ceux et toutes celles qui voyaient en eux toute l'injustice du ciel et de la terre. Car pourquoi, eux, étaient-ils là, bien vivants, pas même un peu estropiés, et qu'étaient morts l'époux, le fils, le père? Des hommes souvent bien plus jeunes que Jean Laval, de la ferme des Combettes, ou qu'Édouard Fex du Pradel. Des disparus qui, tout autant que ces deux favorisés, auraient dû avoir le droit de vivre. Alors, pour ne point attiser le chagrin de trop de femmes, ni soulever quelques très injustes et acerbes réflexions, Jean et Édouard n'étaient plus revenus au village. D'ailleurs, l'eussent-ils désiré que le temps leur aurait manqué, car malgré le courage de celles qui géraient les fermes depuis près d'un an, les moissons n'étaient pas finies. « Ce n'est pas notre faute !» s'était presque excusé Marthe. « Le ciel aussi nous a fait des misères. Parce qu'il a plu en juin, on a pris beaucoup de retard pour les foins. Et, eux terminés, plusieurs orages ont retardé les moissons. Ce n'est pas notre faute. »
Sa faute. La pauvre petite, se souvint-il, avec de plus en plus d'émotion. Car, de sa permission, lui revenait avant tout en mémoire cette première nuit que Marthe lui avait offerte. Et là, malgré toute la reconnaissance qu'il lui voulait, il ne parvenait pas à oublier complètement l'humiliation ressentie lorsque, après 11 mois de séparation, il avait réalisé que son état moral et physique allait le priver de ces moments tant attendus, tant rêvés. Épuisé, doutant de lui, il s'était senti incapable de faire le premier geste. Et il en avait été honteux, diminué. C'est alors que Marthe lui avait prouvé que plus rien n'était comme avant, que l'ordre des choses était bousculé, puisque, même sur ce plan, elle pouvait et savait maîtriser la situation. Et il n'était qu'au début de sa stupéfaction et de son admirative reconnaissance pour elle. Car, tôt levé, malgré les recommandations de Marthe, qu'il adjurait de se reposer, de reprendre des forces, il avait fait le tour des champs. L'ensemble l'avait touché au cœur. Tout était dans un état remarquable. Ici, dans cette pièce moissonnée, attendaient les meules de blé bien construites, bien couvertes et protégées de la pluie par la dernière et 13e gerbe évasée, posée comme un chapeau. Là, ondulant sous le petit vent du matin, celui que semble souffler le soleil lorsqu'il paraît, une nappe de blé en attente de la faux. Ailleurs, nette, fauchée et ratissée, une prairie de sainfoin qui reverdissait déjà. Ici encore, bien décavaillonnée, épamprée et attachée, toute bleue de bouillie bordelaise, croissait la jeune vigne chargée de ses grappes que le soleil d'été faisait déjà gonfler. Partout, une ferme tenue, belle, et qui faisait honneur à celle qui l'avait prise en charge un an plus tôt.
Et malgré tout son travail, elle a même été jusqu'à faire les bordures à la tranche, avait-il constaté en admirant la parfaite propreté et le bel alignement de la limite des terres. Quant au cheptel qu'il était passé voir au retour de sa promenade, il était à l'image des champs. Les vaches étaient superbes, grasses, bien soignées, et les brebis propres, car fraîchement tondues.
« Alors, ça te va ?»
avait demandé Marthe, occupée à subtiliser une casserole de lait à la Banou pendant que son veau tétait. Il avait décelé dans sa voix une once d'inquiétude, comme si elle craignait que, malgré tous ses efforts et son travail, il ait trouvé quelques motifs d'insatisfaction.
«
Je n'en reviens pas. C'est... Ah, comment dire? Magnifique. Voilà, c'est magnifique. Mais comment as-tu pu faire ça toute seule?
Pas toute seule. Ta mère m'aide beaucoup, tu sais. Et même la mémé y met du sien.
Oh, elle ne va pas très fort, la pauvre. Mais enfin, elle fait tout ce qu'elle peut.
Et Louise et Albert aussi m'aident. Tout le monde travaille.
Alors, ça te va? Sûr?
Magnifique, avait-il juste pu lui dire. Car comme quelques heures plus tôt, lorsqu'elle lui avait chuchoté qu'elle était la patronne et le lui avait prouvé, il était sans voix. Ou plutôt tellement reconnaissant qu'il n'était pas certain qu'elle ne tremblât point d'émotion s'il en disait plus. Aussi, pour se donner une contenance, avait-il empoigné une fourche et commencé à refaire la litière des bêtes. Toujours très impressionné par tout ce que lui avait révélé sa découverte des terres en parfait état, c'est en regagnant la maison pour y casser la croûte qu'il s'était surpris à demander
« On va moissonner aujourd'hui ou tu as un autre travail en vue ?»
Parce que l'un et l'autre avaient aussitôt mesuré à quel point sa question était révélatrice du changement de mentalité né de la guerre, c'est dans un fou rire partagé que Marthe lui avait lancé
« Dis, tu n'abuserais pas un peu, des fois ?» Quand tu es là, ce n'est pas moi qui décide, du moins dans la journée et pour le travail. Mais si tu veux quand même mon avis, bien sûr qu'on va aller moissonner. Mais aujourd'hui, c'est toi qui fauches. Moi, j'en ai mon aise.
Bien sûr que je vais faucher, comme l'an passé, le 1er août. Et ce souvenir les avait assombris. Mais peu après, c'est néanmoins avec un immense plaisir qu'il avait affûté la grande lame de la faux à moissonner et ressenti un grand bonheur en la plongeant dans le blé. Ce jour-là, tout avait semblé en ordre. Chacun était à sa place et heureux d'y être. Quant à la guerre, elle était très loin de la ferme des Combettes pour quelques jours. C'est au soir, en plongeant les dernières gerbes sur les meules, alors qu'Octavine, sa mère et les enfants étaient partis soigner les bêtes, qu'il avait posé la question qui le préoccupait depuis presque un an.
« Ce matin, tu m'as dit que ma mère t'aidait beaucoup. Mais comment ça se passe avec elle? Tu ne m'en as jamais parlé dans tes lettres. Vous vous entendez bien au moins? Ça va beaucoup mieux.
C'est-à-dire ?
Tu sais, au début, et pendant quelque temps, il n'y a pas que toi qui faisais la guerre. Ici, parfois, ça bagarrait aussi. Mais maintenant, avec ta mère, c'est presque la paix.
Explique.
Il faut la comprendre. Elle ne m'a jamais aimé. Alors, de voir que tu m'avais confié la ferme, ça lui a fait dépit. Et puis, elle était tellement certaine que je n'étais bonne à rien qu'elle a presque tout fait pour le prouver.
Quoi, par exemple ?
Rien, rien, des bricoles, j'ai oublié, n'en parlons plus. Le principal, c'est que j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Alors les réflexions que j'ai entendues, ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu as bien vu, malgré tout, la ferme est en bon état. C'est ce qui compte, non?
Oui, mais j'aimerais être sûr que vous vous entendez bien. Je repartirai plus tranquille.
Ne parle pas de repartir, il sera bien temps d'y penser le moment venu.
Ce moment-là était vite arrivé, puisqu'une semaine plus tard, il avait réendossé son uniforme bien lavé et repassé par Marthe. Puis, en serrant les dents pour ne pas flancher, il avait embrassé tous les siens et avait rejoint Édouard, qui l'attendait dans la cour. Comme un an plus tôt, ni l'un ni l'autre ne s'étaient retournés, et ils avaient disparu au bout du chemin qui serpentait vers la gare de Noailles. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 23h20.
C'est vrai que ce fut très dur tout ce travail,
pensa Marthe en se souvenant de ses premiers labours avec ce brabant double, si lourd, si difficile à retourner.
Et puis, il y avait Octavine, toujours prête à critiquer, à siffler des méchancetés, pire qu'une vipère, les rouges, les plus dangereuses et les plus teigneuses. Mais je n'allais pas gâcher la première permission de Jean en lui racontant à quel point sa mère avait été mauvaise, parce